Monde en direct.
Les médecins et les dentistes seront en grève le 7 juillet prochain.
La concertation entre les syndicats médicaux et le ministre fédéral de la Santé, Frank Van den Broek, a jusqu'ici échoué. Cette grève, si elle se confirme, ce serait une première en 20 ans et ça traduit le malaise d'une bonne partie du monde médical. Face au projet de réforme des soins de santé, et en particulier le chapitre lié au plafonnement des suppléments d'honoraires.
Le sujet nous concerne toutes et tous en tant que patients, mais il faut bien avouer qu'il est un peu technique. Il est donc bon de rappeler quelques bases en préambule.
Rappelez très brièvement qu'il y a des médecins conventionnés et des médecins non conventionnés, que l'on parle de généralistes ou de spécialistes. Les médecins conventionnés pratiquent des honoraires fixés par une convention avec l'INAMI. Le patient ne paye que le ticket modérateur. Si on prend l'exemple d'une consultation chez un généraliste, c'est environ 33 euros. L'INAMI rembourse 70%. Le patient paye un ticket modérateur de plus ou moins 9 euros. S'il n'est pas conventionné, le médecin est libre de fixer le tarif lui-même. Il peut demander des suppléments et dire par exemple que la consultation, eh bien, elle est à 40 euros. Le patient devra alors payer 16 euros. Le supplément d'honoraires est à sa charge et c'est précisément sur ces suppléments d'honoraires que le ministre Van den Broek veut agir, considérant qu'il y a des abus.
Pour les patients, les soins doivent être accessibles financièrement. Prenons un accouchement. Il y a des hôpitaux où en supplément d'honoraires, vous payez 670 euros pour un accouchement. Mais il y a d'autres hôpitaux, pour le même accouchement, vous payez en supplément d'honoraires 2500, même 3500. Donc c'est énorme, c'est pas sérieux.
Alors, faut-il limiter les suppléments d'honoraires ou au contraire laisser les médecins libres de leur choix? C'est l'objet de notre débat de ce soir dans Allô le Monde. Pour participer à la discussion, vous formez le 070 66 55 44 ou vous nous laissez un message vocal via WhatsApp.
Allô le Monde sur WhatsApp 0471 200 500. 0471 200 500.
Et nous inviter ce soir à nos côtés, Patrick Emmons, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'APSIM, le principal syndicat médical, et Élise de Roite, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente des mutualités chrétiennes, principale mutualité du pays, avec environ 4,5 millions de membres. Patrick Emmons, peut-être pour commencer, une grève le 7 juillet prochain, à la suite d'une réunion jugée décevante avec le ministre de la Santé. On est obligé d'en arriver là?
Oui, on est obligé d'en arriver là à partir du moment où toutes les techniques de concertation n'aboutissent pas, où le ministre veut aller extrêmement vite et où on ne veut pas se laisser le temps, je dirais, de réfléchir, de concerter pour construire quelque chose qui soit effectivement ce que souhaite le gouvernement, c'est-à-dire une accessibilité, une qualité des soins, une efficience. En allant très très vite, ben on a un petit peu le résultat contraire.
Lui répète que c'est un projet et que ce projet, il peut être amendé, en effet, après consultation des différents acteurs de ce dossier, que ce soit les mutuelles, que ce soit les médecins, leur représentation syndicale. Vous avez l'impression que c'est du vent, ce désir de concertation qu'il exprime ?
Alors Duvran, je ne pense pas, parce que je pense qu'effectivement, il se rend compte que la concertation, elle est nécessaire, mais une concertation qui n'est pas possible dans le timing qui est imposé. Je pense que la difficulté, elle est là, et elle est là pour lui aussi, c'est qu'il a décidé, de, sans doute par rapport à des accords qu'il a eu avec la coalition, c'est d'aller très très vite pour pouvoir déposer ce projet de loi.
Donc on va trop loin. Trop vite, c'est ce que vous dites, mais est-ce que sur le fondement de la réforme, et c'est là que j'aimerais vous entendre, vous êtes par ailleurs gynécologue, le ministre Frank Van den Broek à l'instant disait qu'on avait des suppléments d'honoraires dans les hôpitaux pour un accouchement qui pouvait aller de 450 euros à 3500 euros dans un hôpital. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'à l'APSIM, on trouve que ça, en fait, c'est la liberté de chacun et c'est aussi la liberté du patient d'aller dans un hôpital où on pratique ce type de supplément ou d'aller dans un autre?
Alors c'est vrai que le ministre a vraiment ciblé sur cette notion d'exagération et sur ce point, je dirais, il a seulement partiellement raison. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépassent complètement les normes et avoir l'idée d'établir quand même, je dirais, une certaine limite, c'est quelque chose qui est tout à fait concevable. À côté de cela, vous parlez d'un accouchement, je vais répondre rapidement. Vous savez qu'un accouchement, vous pouvez arriver, cet accouchement, il va se passer en 10 minutes et la dame, elle est ravie, elle a poussé deux fois. Vous allez y passer toute la nuit avec une dame qui va faire une hémorragie qui va être récupérée difficilement, ou vous allez la sauver d'extrême justesse, et la valeur de l'acte est exactement la même.
Mais les suppléments d'honoraires ne sont pas nécessairement en fonction du temps qu'on reste à l'hôpital.
Pas du tout, pas du tout, ouais. Je dirais justement, mais il faut une adaptation, et c'est ça que nous avons dit, c'est une adaptation par rapport aux conditions et par rapport aux difficultés, mais aussi par rapport à la qualité du médecin.
C'est ça, mais donc ici, Frank Vandenbroek propose de plafonner les suppléments d'honoraires en hôpital à 125%. Ça vous semble être trop normatif et problématique?
Oui, tout à fait, parce que vous allez avoir une réforme de la nomenclature et une réforme de financement des hôpitaux. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord savoir d'où vous partez, pour savoir quel pourcentage vous pouvez tolérer. Mmh. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'il faut d'abord finir les réformes qui sont en cours pour avoir un travail qui se fait intelligemment à partir du niveau réel, mmh, et pas à toute vitesse comme ils veulent faire.
Et les réformes que vous évoquez, hein, en effet, hein, réforme du financement des hôpitaux d'une part, réforme de la nomenclature d'autre part. Élise de Roite, est-ce que vous, sur le principe en fait, de la réforme qui est ici proposée par le ministre Vandenbroek, vous dites, en effet, il est important d'agir et on ne peut plus tolérer des suppléments d'honoraires avec une telle diversité en fonction des médecins, des hôpitaux?
Nous, en tant que mutuelle, c'est vrai qu'on part du principe qu'il faut faire ces réformes. Mais on comprend aussi, on a aussi de l'empathie pour ce que disent les médecins, on comprend aussi qu'on trouve aussi que la réforme se fait trop vite. Mm-hmm. Mais sur les réformes, il faut les faire. Enfin, en Belgique, on a le coût à charge du patient qui est le plus élevé d'Europe. On a les ménages les plus faibles, ils payent 7% de leurs revenus pour payer leurs soins de santé. C'est énorme, en fait. Et donc, il y a en effet un problème, mais par contre, c'est des problèmes qui, en Belgique, on gère toujours par la concertation. Et on a une concertation qui fonctionne très bien. Nous, on discute, on dialogue avec les médecins, on arrive toujours à trouver des solutions de compromis, des solutions qui permettent de protéger l'accessibilité pour le patient.
Et si le coût est si élevé pour les patients chez nous, c'est parce qu'il n'y a pas assez de médecins conventionnés ?
L'accessibilité à des médecins conventionnés, c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça qu'une réforme du conventionnement est nécessaire, parce qu'on voit que le conventionnement, il a évolué. Les nouvelles générations de médecins, ils se conventionnent moins. Et c'est pas juste les médecins. Je veux dire, dans toutes les professions médicales, les personnes se conventionnent moins. Donc, il faut une réforme du conventionnement. Mais on peut pas croire qu'on peut réformer un système aussi complexe sans les acteurs de terrain. Mm-hmm. Les acteurs du terrain, ils connaissent les spécificités, ils connaissent les difficultés du terrain. Ils représentent aussi les prestataires de soins. On doit le faire ensemble. Et c'est vraiment très, très important.
Et il est important de préciser, avant de donner la parole à un premier auditeur, que en fait, le conventionnement, ça dépend très fort des spécialités. Par exemple, chez les généralistes, je prenais un exemple tout à l'heure, mais chez les généralistes, ils sont presque tous conventionnés.
97% à peu près.
En revanche, chez les gynécologues, c'est seulement un tiers. Hein,
tout à fait, mais c'est bien la preuve qu'il faut d'abord remettre à niveau et remettre les choses. Et la nomenclature, c'est l'idée, c'est de remettre à niveau les différentes spécialités. Mmh. Et à ce moment-là, vous pourrez amener vers le conventionnement plus facilement, parce que ça aura été valorisé.
Et c'est Philippe que nous avons en ligne. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Vous aviez une réflexion à nous partager dans ce débat.
Mais écoutez, moi je serai encore un peu plus sévère que vos invités. Non seulement j'estime qu'il n'y a pas lieu, il y a au contraire lieu à plafonner les honoraires des médecins, mais en plus j'interdirai le déconventionnement. Alors pourquoi ? Ben pour une simple raison. La sécurité sociale, elle sert à quoi ? Elle sert à rendre accessible la médecine à tous. Que vient faire le déconventionnement par rapport à cette philosophie qui est vraiment un des fondements de notre société? Je ne comprends pas. Je reste très sceptique et je ne vous cache pas que j'étais quelque peu choqué par ce qui est dit dans le monde médical.
Eh bien, nos invités vont répondre à vos interrogations, Patrick Emmons.
Oui, mais je comprends la position de cette personne, parce que c'est vrai que l'État participe beaucoup au financement des soins de santé et participe beaucoup, effectivement, dans les frais des prestations qui sont faites. Donc, il y a quand même un retour vers l'État, qui est quelque chose de normal. Mais inversement, si vous mettez toutes les personnes conventionnées, je pense que l'auditeur n'a pas capté, c'est que le médecin, alors, va fonctionner comme un fonctionnaire. Donc, il va faire 36, 37 heures semaine, et plus, comme certains gynéco, et je suis bien placé, des 50 heures, 60 heures semaine, des soirées, des nuits, éventuellement, je dirais, des week-ends aussi, avec une disponibilité au patient et un temps qui lui est consacré. Et la déconvention vient justement d'un niveau de convention qui n'est pas suffisant, ou qui n'est pas correct, qui ne peut pas intégrer
ces facteurs. Donc pour vous, les tarifs en fait, qui sont proposés par les conventions ne correspondent pas à la charge de travail qui est la
vôtre, c'est ça ce que...
C'est exactement ça, et pas que la charge de travail, c'est les études, c'est le recyclage permanent, c'est le risque médico-légal qui était énorme. Hein. Vous savez, l'enfant qui vient de naître, pendant 30 ans, il peut porter plainte hein, sur son accouchement. Donc je veux dire, ça c'est des choses...
Et donc en clair, vous vous dites, moi je ne gagne pas ma vie. Si je suis conventionnée comme gynécologue, je ne gagne pas ma vie.
Si je suis conventionnée, je dirais, indépendamment du fait d'être salarié quelque part dans un hôpital, mais si je suis conventionnée, payer mon matériel, avoir un matériel hors norme avec un échographe qui permet de faire des échographies fantastiques des bébés, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire.
Une réaction de votre part, Élise de Roite, à ce que disait aussi notre auditeur. Et c'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que les acteurs de la santé sont des prestataires de services comme les autres? Parce que c'est un peu ça, hein, le fond du débat. On reproche l'étatisation, la vision étatique de Frank Vandenbroek du côté de l'APSIM, une fonctionnarisation. Et puis, d'autres disent, en fait, oui, la santé, on doit tous y avoir accès de la même manière et ces médecins ne peuvent pas être libéraux comme le seraient d'autres indépendants.
Oui, je pense qu'il faut vraiment replacer le débat avec des objectifs de santé publique. Je pense que là où on est partenaire avec les médecins, c'est qu'on a une vision de ce que doit être la santé publique et l'accessibilité de la santé publique. Et donc, dans ce cadre, les médecins, ils ont un rôle d'acteur, donc ils jouent un rôle pour promouvoir la santé publique. Et ils ont aussi une responsabilité, et c'est pour ça qu'ils négocient avec nous les conventions, les accords, et jusqu'à présent, on a toujours atteint le niveau de la convention avec les médecins. Donc, en effet, il faut un taux de conventionnement extrêmement important. Alors, je ne vais pas rentrer sur la différence entre l'ambulatoire et ce qui se passe à l'hôpital, parce que et beaucoup des exemples qui sont donnés, en fait, il y a aussi des charges qui sont spécifiques en ambulatoire, donc quand on est en dehors de l'hôpital. Mm-hmm. Mais en fait, c'est ça que la réforme de la nomenclature doit adresser. Seulement, la réforme de la nomenclature, donc la nomenclature, elle finance les actes en fonction de ce qu'on fait. Mm-hmm. Mais elle a vieilli, et donc les actes ont évolué, donc c'est normal qu'on la revoie. Mais c'est aussi important de décider ce qu'on finance et ce qu'on ne finance pas pour atteindre ces objectifs communs. On doit faire aussi énormément d'économies dans les soins de santé. Et donc, c'est important qu'on soit tous d'accord sur l'objectif de santé publique, de la plus grande accessibilité possible pour le patient, une meilleure protection tarifaire. Et dans ce cadre-là, la convention, elle a tout son sens, elle est absolument nécessaire.
Si je peux ajouter juste une petite chose, c'est que si les médecins fonctionnent à 36 heures semaine, les délais pour avoir des rendez-vous vont exploser. Le temps passé avec chaque patient va raccourcir considérablement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose...
Ça colle parfaitement, je pense, avec la réflexion de notre auditrice que nous avons en ligne. Bonsoir, Cécile.
Oui, bonsoir.
On écoute votre réflexion.
Oui, pour ma part, quand je vais chez le généraliste, j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin qu'il ou elle prenne le temps, en l'occurrence c'est elle, et je me dis que si on a des consultations beaucoup plus courtes, parce que, au vu des réformes, c'est vraiment pas bien du tout. Alors, c'est quand même de longues études. J'entends aussi qu'ils font encore des gardes, et puis ils enchaînent sur la journée du lendemain, donc c'est un métier qui est quand même pénible. Il manque de généralistes, dans certaines régions de Belgique, il n'y en a quasi pas. Je vois pas très bien, je trouve que c'est pas du tout une bonne solution. Mmh. Voilà. D'autant qu'il me semble que si on ajoute 5 euros de plus à la convention, peut-être que c'est dur pour certaines personnes, mais quand je vois le prix.
Merci.
Je vais dire des bêtises.
Merci, ouais. Cécile.
Merci.
Et j'aimerais faire réagir Élise de Roite, sans me faire la porte-parole du ministre, il n'est pas dans ce studio, mais quand même préciser que les médecins peuvent rester conventionnés ou pas conventionnés à l'avenir. La réforme ne touche pas à cela.
Non, mais ce que la réforme essaye de faire, c'est de faire un plus grand distanciel entre le fait d'être conventionné et non conventionné, pour pousser les médecins à se conventionner, parce que pour le moment, on voit qu'on diminue le taux de convention et le taux d'adhésion à la convention à chaque nouvel accord. Et ça, c'est dangereux pour l'accessibilité, parce que c'est vrai que certaines personnes savent payer des suppléments, certaines personnes savent payer des tickets modérateurs plus élevés, donc la ticket modérateur, c'est ce que vous payez en plus de ce qui est remboursé, comme vous l'expliquiez, mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Il y a des gens pour lesquels c'est un vrai obstacle, et on a de plus en plus de reports de soins aussi, des populations les plus précarisées. Donc c'est vraiment important, c'est un filet, en fait, pour la santé publique, d'avoir une accessibilité qui est la plus grande possible, et puis alors, il y a certains prestataires qui ne rentrent pas dans la convention, mais nous, on pense que, bien entendu, pour atteindre les objectifs de santé publique, il faut le plus possible de prestataires prestataire conventionné, parce que ça permet de garantir qu'il y a le moins possible de report de soins pour les patients qui sont précarisés.
Alors, on a compris qu'à l'APSIM, vous vous battez pour qu'on ne limite pas les suppléments d'honoraires, en tout cas pas au taux qui sont aujourd'hui affichés. Vous militez aussi pour que l'on ne supprime pas, en fait, le statut hybride de certains médecins qui sont en partie conventionnés, par exemple, quand ils reçoivent des patients à l'hôpital, mais qui, dans leur cabinet privé, pratiquent des tarifs qu'ils choisissent.
Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment dans l'état actuel de la santé un statut qui est un statut qui permet justement une disponibilité du médecin, une accessibilité. Si vous avez juste le médecin qui est conventionné, après ses 36-37 heures, il rentre chez lui et il va se détendre. S'il a la possibilité, au-delà de sa convention, d'accepter de travailler à 21 heures, d'accepter de travailler le samedi, comme je le disais, il est légitime que ce soit valorisé.
Mais est-ce que c'est bien logique, du point de vue du patient, de se dire si je vais voir mon gynéco à l'hôpital, je paye autant, et si je vais le voir dans son cabinet, je paye autant. C'est pas hyper clair.
Si, c'est clair, parce que vous voyez le même gynéco, il vous donnera les mêmes soins et il prendra la même attention.
Mais vous ne payerez pas le même prix.
Et vous ne payerez pas le même prix parce qu'à l'hôpital, c'est le financement des hôpitaux qui lui a acheté tout son matériel.
Ouais. Sur cet aspect, Élise Deroy.
Nous, on plaide quand même pour que le système soit plus lisible, parce qu'ici, on parle d'un cas très particulier où il y a une pratique privée, une pratique à l'hôpital.
Mais aussi ça arrive souvent, hein, ce n'est pas une exception. Hein.
Non, pas du tout. Mais je veux dire, il y a aussi des situations où on a des plages où on est conventionné à l'hôpital, puis des plages où on est déconventionné. C'est illisible pour le patient. Le patient, il ne sait jamais quel va être le tarif qu'on va lui imposer. C'est vraiment important qu'il sache s'il choisit un prestataire conventionné, que ce prestataire est pleinement conventionné. D'ailleurs, les partiellement conventionnés comptent dans le contingent des conventionnés. Donc, quand on atteint les 60% de prestataires conventionnés, on l'atteint aussi avec tous ceux qui sont partiellement déconventionnés. Donc, en fait, on n'atteint pas la couverture qu'on a estimée nécessaire pour atteindre notre objectif de santé publique. Donc, pour nous, on est pour une plus grande lisibilité, donc on est plutôt favorable à
ça. Mais donc, les mutualités chrétiennes, si je comprends bien, sont totalement favorables au projet du ministre Vandenbroucke, mais conteste la manière dont la concertation se mène et les échéances. Mais sur le principe, sur les objectifs, vous ralliez tout à fait, vous, la limitation des suppléments d'honoraires, la suppression de ce statut un peu hybride.
On a des points d'attention. Par exemple, il y a les tarifs indicatifs sur lesquels on a vraiment des critiques, parce que c'est aussi des suppléments au sein de la convention. On a plusieurs éléments sur lesquels on a des critiques, mais nous, notre point de vue, c'est de dire toutes ces choses doivent se négocier. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est des choses qui doivent normalement se résoudre dans la réforme de la nomenclature, dans la réforme du paysage hospitalier, dans le financement hospitalier. Et pour nous, on va trop vite dans cette réforme. Donc sur l'idéologie, bien sûr, c'est des choses sur lesquelles qu'on défend depuis des années. Donc bien entendu, on est pour cette plus grande accessibilité, mais par contre, pour nous, ça ne peut se faire que dans une concertation qui est à la manœuvre, parce que c'est elle qui connaît le mieux le terrain et les enjeux.
Tout à fait, et nous pouvons concerter tout à fait, même sur le partiellement déconventionné, à partir du moment où la lisibilité existe. Et si on a une transparence partout.
Sur la transparence, vous vous retrouvez.
Bien sûr, mais complètement.
Bien sûr.
Et je pense qu'à partir de ce moment-là, là, il n'y a plus d'obstacles. Voilà ce qu'est une concertation médico-mutualiste, c'est de dire, si vous assurez la transparence de manière claire, alors nous pensons que ça peut rester. Vous voyez que ce n'est pas une opposition qui est formelle, c'est une conciliation, parce qu'il faut qu'au centre, pour le médecin comme pour les mutuelles, ce soit le patient qui soit gagnant.
Et vous avez calculé un chiffre avec l'APSIM qui serait un plafonnement des suppléments d'honoraires acceptable ?
Alors je vous renvoie la balle à nouveau. Comment voulez-vous que je puisse vous le dire, puisque je ne sais pas ce que la nomenclature va être ? C'est bien là qu'il est le problème. Comment voulez-vous pouvoir estimer que vous pouvez monter jusqu'à un plafonnement ? Je suis d'accord qu'il le faut. Il faut sortir les outliners. Ça veut dire ceux qui exagèrent de manière complètement ridicule. Ça, on est d'accord et il faut trouver. Et nous sommes d'accord avec les
mutuelles. Et rétablir aussi une forme d'équité entre différentes disciplines
évidemment.
De la médecine.
Et parce tout qu'aujourd'hui, ça sera dans la nomenclature. Que... selon quel spécialiste vous allez voir, il y en a un qui gagne 3 fois plus que l'autre. Mais je ne le critique pas parce qu'il gagne plus que l'autre. Je dis juste qu'il faut quelque chose d'équitable. Un acte intellectuel, il est payé le même pour un pédiatre, pour un gynécologue, pour un psychiatre ou pour un chirurgien. Mais le matériel dont il a besoin n'est pas le même, ce qui fait les différences de prix.
Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. C'était le Allô le Monde, du Monde en direct. Que vous aimiez